Well, it seems to me that everybody speaks about Europe all the time today.
L'Europe de peuple.
L'Europe, c'est à la fois trop petit et trop grand.
Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut changer ça?
I fucking love Europe.
Full Continental, épisode 22, la mensuelle, référendum, groupe de rock et lanceur d'alerte.
France Inter.
La première.
Full Continental. Caroline Gillet.
Bonjour à tous, bienvenue dans la quatrième mensuelle de l'histoire de cette émission qui s'appelle Full Continental. Pour commencer, vous dire que, selon Médiamétrie, vous seriez 830 000 à nous écouter en France. C'est 120 000 de plus que le semestre dernier, merci beaucoup. Et puisque du coup, parmi vous, il y a des nouveaux, on va prendre le temps de revenir sur le concept de ce que vous êtes en train d'écouter. Chaque semaine, dans Full Continental, on dresse des portraits de jeunes Européens et des problématiques de société auxquelles ils font face. On raconte des histoires intimes, sur le terrain, et une fois par mois, on reste en studio, on prend notre courage à quatre mains avec Maxime Caligaro pour raconter l'Europe côté institution. Maxime Caligaro, c'est qui ? Eh bien, il est juste là, à côté de moi. Bonjour Maxime.
Salut Caroline.
Alors Maxime, tu es eurocrate repenti, la preuve, tu viens de boucler avec un copain fonctionnaire l'écriture d'un polar dans les couloirs de Bruxelles. Vous avez mis combien de meurtres ? Et est-ce que ça t'a défoulé d'abord ?
Alors on a mis au moins un meurtre, celui d'une députée européenne dont on retrouve le cadavre en plein Parlement européen. Et ouais, ça nous a un peu défoulé parce qu'après plusieurs années passées dans les institutions européennes, il nous fallait au moins ça. En fait, on est parti d'une question qui nous hantait. Peut-on tuer pour l'Europe ?
Donc l'idée, c'est de raconter les institutions européennes autrement, de faire découvrir un peu cette faune bruxelloise. Alors pourquoi pas faire couler du sang sur les moquettes grises ? Ça s'appelle Les Compromis et ça sort début février chez Rivage Noir. Mais donc ce travail qui consiste à raconter les institutions européennes, tu le fais pour la fiction, tu le fais aussi un peu ici chaque mois, puisque tu travailles par ailleurs comme journaliste et tu pars pour nous en reportage dans les institutions, donc attention à toi, ça a l'air un peu dangereux, et tu tentes de démêler les fils de ce qui s'y trame, puisque vu d'ici et vu de partout, je pense, on peut le dire, ça a l'air assez complexe. Or, l'enjeu est de taille, puisqu'il reste combien de jours avant les élections européennes ?
Il reste 119 jours, soit 17 dimanches.
T'as une horloge chez toi qui décompte les jours avec un tic-tac ?
Non, je compte ça sur mes petits doigts et j'espère tous les jours qu'on me posera la question. Merci Caroline.
Donc 119 jours, certains en nous écoutant viennent de l'apprendre. Il peut s'en passer plein de choses en 119 jours. Donc nous, on a ce fantasme depuis le début de l'année d'arriver à faire que ce décompte soit hyper haletant, que les élections européennes, ça devienne aussi excitant qu'une série type House of Cards. Oui, on espère que comme dans la célèbre série de Netflix, il y aura peut-être pas des meurtres, mais des coups bas, des intrigues, du suspense, bref, un peu de vie. Et pour vous donner envie de suivre tout ça de près, et aussi pour nous amuser, on s'est dit que pour les prochaines mensuelles, on allait dresser des portraits, des poulains des différentes familles politiques qui se battent pour avoir la direction de la Commission.
Oui, parce que pour les élections européennes, on vote pour élire un peu plus de 700 députés. C'est bien, mais c'est un peu vague. On a du mal à mettre un visage sur l'Europe. Alors depuis 2014, il y a une petite innovation et chaque grande famille politique européenne, la droite, la gauche, les verts, les libéraux, chaque famille politique européenne désigne un candidat pour ravir la présidence de la Commission.
Alors pour rappel, la Commission c'est une sorte de gouvernement avec des commissaires qui ont chacun des portefeuilles.
Et un président, donc Jean-Claude Juncker, depuis 2014, qui s'était présenté à l'époque pour la droite européenne et qui avait gagné. Il s'était opposé à un socialiste, un Allemand, Martin Schulz, qui était à l'époque président du Parlement européen, et il y avait même Alexis Tsipras, l'actuel Premier ministre grec, d'extrême gauche lui, qui s'était présenté parce qu'il s'était dit, et c'est plutôt pas bête, que plutôt que de critiquer les politiques de la Commission européenne, il fallait essayer d'en prendre la direction. À la fin, c'est la droite qui a gagné, c'est elle qui a eu le plus de sièges au Parlement européen, et c'est Juncker qui a été élu.
Et aux élections cette fois-ci en 2019 ?
Alors en 2019, rebelote, on remet en place ce système de désignation du président de la Commission européenne, et les partis européens ont désigné des champions, des candidats, et on va faire leur portrait pour essayer d'expliquer qui ils sont, de quelle famille politique ils viennent et s'ils sont à la hauteur de Kevin Spacey dans la fameuse série House of Cards.
Alors, Europe House of Cards, candidature numéro 1, c'est parti. On commence par qui ?
Alors, on commence par Manfred Weber. Manfred Weber, c'est un Allemand de la CSU, un petit parti de droite de Bavière qui est allié au gouvernement avec Angela Merkel. Et Manfred Weber, c'est le candidat du Parti Populaire Européen, le groupe qui a le plus de sièges au Parlement européen. Et voilà son clip de campagne.
Europe was always my passion. I love to work on European level. But frankly speaking, coming home is really what makes me happy.
My village is Wildenberg, a small village in Lower.
Alors on mettra la vidéo sur le site, mais on voit donc Manfred Weber courir en forêt, regarder à l'horizon avec un air pénétré, entrer dans une église et faire un signe de croix. On le voit aussi sur une scène quand il avait des cheveux, jouer dans un groupe de rock d'adolescents. Grosse info sur sa bio.
Ouais, son groupe s'appelait The Peanuts, les cacahuètes en français. J'ai pas trouvé de morceau en ligne sur Spotify ou autre, et je peux pas dire si c'était chouette ce qu'il faisait.
Alors ce que Manfred Weber essaye de nous faire comprendre dans son clip, c'est qu'il vient d'une région rurale et que l'Europe c'est super tant qu'on respecte les identités locales.
Voilà, alors parmi ses collègues, il est connu pour être celui qui rentre tous les week-ends chez lui en Bavière, mais beaucoup à Bruxelles s'interrogent pour savoir s'il a la stature pour devenir le président de la Commission. C'est un vrai politicien, il milite depuis longtemps, mais il a fait toute une carrière dans le Parlement européen. Problème, il n'a jamais été ministre, il n'a jamais vraiment été aux responsabilités.
Et sa position au sein de la droite européenne, c'est quoi ?
Alors, sa position à lui, c'est le grand écart. Parce que la droite européenne, c'est une énorme chapelle qui va des centristes à la droite très dure. Dans son groupe, on trouve des juppéistes qui veulent, par exemple, l'Europe unie, mais aussi le parti nationaliste de Viktor Orban. Et c'est un peu compliqué de lire la position de Manfred Weber sur Orban. Quand le Parlement européen s'est prononcé sur la situation en Hongrie, il a voté avec ceux qui s'inquiètent de la dérive autoritaire d'Orban. Mais quand il s'agit de passer à l'acte, on le sent plus hésitant. Il ne veut pas, par exemple, exclure Orban du Parti populaire européen. Et la semaine passée, il a séché une séance de vote importante sur un rapport qui proposait de conditionner l'octroi de subsides européens au respect des libertés et à l'indépendance de la justice. Et parmi les soutiens de Manfred Weber, on compte aussi Silvio Berlusconi.
Info importante, on rappelle que Berlusconi vient d'annoncer qu'il serait candidat aux élections européennes en mai. Il a 82 ans.
Et il sera probablement élu, à en croire les derniers sondages. En attendant, il y a une super photo sur Twitter où l'on voit Manfred Weber, candidat de la droite, dans une splendide villa serrant la main du Cavaliere, bien bronzé, en chemise noire, en compagnie d'un caniche.
Et sinon, en privé, il se dit quoi sur Manfred Weber ? Enfin, on dit quoi de lui dans les couloirs des institutions ?
Alors moi, j'ai voulu me faire une idée. Je lui ai couru après toute une journée à Strasbourg, mais il n'a pas trouvé un moment pour moi. On me dit en privé que c'est quelqu'un d'affable, de modéré, mais qu'à trop vouloir préserver l'unité de son parti, il encourage peut-être les franges les plus extrêmes.
Et est-ce qu'il est aussi malin et tordu que Frank Underwood, le politique qui est prêt à tout pour devenir président dans la série House of Cards ?
Alors oui et non, parce qu'il n'a pas peur de déjeuner avec le diable ou de prendre des photos Twitter avec Silvio Berlusconi. Mais à la différence de Frank Underwood dans House of Cards, il ne veut pas forcément arriver au sommet. Ce qu'on peut lire ici et là, c'est que Manfred Weber sait qu'il n'a aucune chance d'être élu président de la Commission européenne et qu'il fait simplement ça pour se placer, essayer d'avoir un autre poste, un espèce de prix de consolation, par exemple la présidence du Parlement européen.
Mais donc si la droite gagne aux élections en mai, ce ne sera pas lui automatiquement à la tête de la Commission ? Je pensais que c'était ça le deal.
Alors c'était l'idée, c'est ce qui s'est passé en 2014, mais les chefs d'État et de gouvernement n'ont pas très envie de recommencer. Certains trouvent que ça donne trop de poids au Parlement européen. D'autres trouvent que c'est un alibi démocratique et c'est une façade démocratique. Bref, on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais pour notre idée de série, c'est quand même pas mal parce que ça donne du suspense. D'autant plus que le véritable concurrent de Manfred Weber est dans sa propre famille politique. C'est Michel Barnier, le Français qui négocie en ce moment le Brexit. Il n'est pas officiellement candidat, mais on me dit qu'il y pense tous les matins en mangeant son English breakfast.
Dans la prochaine mensuelle, tu fais quel portrait ?
Ce sera Frans Timmermans, le candidat socialiste.
Super, bah on essaye de ne pas se faire trop d'illusions, mais on espère que vous aussi, vous êtes impatients d'entendre la suite. On passe à notre premier sujet du jour, les outils démocratiques des institutions européennes.
Foule continentale. Caroline Gillet sur France Inter.
Dans la deuxième partie de cette émission, tout à l'heure, on reviendra sur le sujet des lanceurs d'alerte. Mais d'abord, un autre qui nous semblait important de traiter depuis les institutions dans le contexte actuel, celui de la démocratisation des institutions européennes. Il est souvent reproché à l'Europe de souffrir d'un déficit démocratique. On en avait notamment parlé dans une visite guidée avec Ludovic Lamant qui racontait comment l'architecture européenne reflétait ce problème. Or, c'est aujourd'hui la revendication numéro un des Gilets jaunes, et pas seulement, l'envie de plus de démocratie directe à l'échelle nationale mais aussi internationale. En France, ils demandent la mise en place d'un référendum d'initiative citoyenne. Et ce qui est intéressant, c'est que cette envie de plus de référendum, elle coexiste dans l'actualité en ce moment avec le cafouillage du référendum sur le Brexit. Beaucoup appellent en Grande-Bretagne un re-vote, un deuxième référendum. Cette idée d'un second vote britannique, ça accueille comment à Bruxelles ?
Alors écoute, dans les institutions, on me dit que le pire, ce serait maintenant que les Britanniques restent. Imagine-toi un peu. La personne avec qui t'es mariée depuis des années te dit un jour « Chérie, je m'en vais, je claque la porte ». Elle revient quelques mois plus tard en disant « Écoute, j'ai regardé, c'est trop cher, c'est trop compliqué, je reste ». T'imagines l'ambiance à la maison ?
Effectivement.
D'autant plus que le reste de l'Europe est passé à autre chose. Par exemple, les 73 sièges de députés européens au Parlement européen ont déjà été redistribués entre les pays. La France va gagner 5 députés, l'Espagne aussi, l'Italie 3. Plein de petits pays vont avoir un siège en plus. Donc honnêtement, on est un peu passé à autre chose. On a envie de dire « Goodbye Britain ».
Ok, mais là, on s'aperçoit quand même que les Anglais étaient mal informés sur le Brexit, qu'il y a eu des manipulations de données, on en parlait dans l'épisode sur Liverpool. Et puis, je me souviens de cette anecdote, c'était quoi la question la plus tapée par les Anglais sur les moteurs de recherche après le Brexit? C'était, qu'est-ce qui se passe si on quitte l'Union européenne? La deuxième question la plus tapée, c'était, c'est quoi l'Union européenne? Alors, les référendums, c'est compliqué. Est-ce qu'ils n'ont pas le droit à une deuxième chance?
Écoute, moi, le re-vote... Je m'y risquerai pas. Le référendum, c'est pas dans les habitudes britanniques. C'est Margaret Thatcher qui disait très bien, les référendums sont des instruments pour les démagogues et les dictateurs. Et elle a dû se retourner dans sa tombe au moment où son propre parti a annoncé en 2016 la tenue d'un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne, sujet ô combien compliqué.
La pauvre. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a un film qui est sorti au début du mois, ça s'appelle Brexit, the uncivil war, Brexit, la guerre incivile. Ça raconte les coulisses de cette campagne des pro-Brexit. On va vous en passer un extrait, on entend l'acteur qui joue le directeur de campagne du Leave. Il dit ce qu'il pense des référendums et comment il entend, lui, mener la campagne.
With respect, this...
Ce référendum, c'est franchement une idée débile. Les référendums sont les pires outils pour décider de quoi que ce soit. Ils divisent la société et prétendent que des problèmes immensément complexes peuvent être réduits à un choix binaire. Oui, non, noir ou blanc, bleu ou rouge. On sait qu'il existe des moyens plus intelligents et sophistiqués pour changer les choses. Mais bon, on ne vit pas l'ère de la nuance et de la sophistication. La politique est devenue une affaire de crétins, à cause des crétins qui en vivent. Mais les choses sont comme elles sont, et je vais tout faire pour qu'on gagne, par tous les moyens. Mais pour y arriver, il faut hacker le système politique.
Alors bien sûr, ce qu'on entend là, c'est un dialogue qui a été écrit pour le cinéma, mais le directeur de campagne existe et ce film est basé sur les faits réels.
Oui, et il faut bien savoir que pour les responsables de la campagne du Brexit, au-delà de la question de savoir si oui ou non il fallait rester dans l'Europe, le référendum, c'était un bon moyen de faire turbuler le système. Parce qu'en réalité, le référendum, c'est un peu comme quand tu appuies sur le gros bouton de la centrale de ton ordinateur pour l'éteindre. Ça fait pas forcément du bien à la bête, sur le long terme, mais ça donne un vrai sentiment de satisfaction immédiate, et puis au moins tu peux recommencer à travailler et partir sur de nouvelles bases.
Et ça donne aussi, il faut dire, aux citoyens la sensation d'avoir une vraie prise sur la réalité politique et sur les décisions qui sont prises. Bon, mais après, il n'y a pas que les Anglais qui font des bras d'honneur à l'Europe par référendum. On se souvient des noms français et néerlandais en 2005, du référendum sur le plan de sauvetage en Grèce, et aussi du référendum pour refuser l'accueil des migrants organisé par Viktor Orban en Hongrie récemment.
C'est vrai, il y a beaucoup de référendums sur l'Europe. Le week-end dernier, je me suis amusé à les compter. Un, parce que je fais ce que je veux de mes dimanches, et deux, pour savoir combien de référendums avaient été gagnés par l'idée européenne. Alors j'ai compté 60 référendums au total organisés sur le continent, dont 42, donc plus de la moitié, gagnés par l'idée européenne.
Oui, mais quand tu dis l'idée européenne, y a des gens qui sont très pro-européens, mais qui ne veulent pas de l'Europe qu'on nous propose et qui ont voté non au référendum en 2005, par exemple.
Oui, bien sûr. Quand je parle de l'idée européenne, je parle de l'Europe telle qu'elle existe, pas de celle qu'on s'imagine tout seul le soir, tard dans sa chambre. Parce qu'en fait, dans un référendum sur l'Europe, le match se fait toujours entre la réalité d'un côté et la coalition des rêves. Les textes européens, ce sont des compromis complexes, négociés à 28, et si tout le monde doit se prononcer par référendum, alors on donne un droit de veto à tous. Un exemple, en 2005, les Français avaient dit non par référendum, mais les Espagnols, eux, avaient dit oui. Est-ce que ça veut dire que la parole des Français vaut plus que celle des Espagnols? Point d'interrogation.
Ouais, mais du coup, ça veut dire que si le référendum, c'est pas un bon instrument pour décider des règles au niveau européen, comment on fait en tant que citoyen pour participer et avoir une prise sur ce qui se décide?
Alors à Bruxelles, on m'a expliqué qu'il y avait toute une série d'instruments dont je t'avoue que j'ai du mal à voir s'ils relèvent du gadget ou du véritable outil de démocratie participative. Le premier outil que j'ai trouvé, c'est les consultations publiques. C'est un truc que j'ai appris quand je suis arrivé à Bruxelles il y a quelques années, c'est que la Commission européenne a l'obligation de mettre en ligne toutes ces propositions de texte et le public a plusieurs semaines pour commenter et critiquer.
Ah oui, ça me rappelle Mike, c'est un autre fonctionnaire européen que j'avais rencontré cet été et qui me disait qu'il était un peu vexé parce que assez peu de gens s'emparaient de ces outils démocratiques qui étaient mis en place. En tout cas, je crois que c'est pas à la portée de chaque citoyen de s'intéresser à ces dossiers qui sont assez complexes. Mais en tout cas, ceux qui interviennent, ceux qui mettent des commentaires, ils voudraient avoir l'assurance que ça peut servir à quelque chose. Est-ce que ces commentaires sur les consultations publiques, est-ce qu'ils seront vraiment pris en compte?
Ça, on peut pas le savoir, mais ce qu'on sait, ce qu'on me dit, c'est que ce sont souvent les lobbies, les entreprises et les ONG qui se saisissent de ces consultations publiques, mais je me dis que si tout le monde s'en empare et fait chauffer les serveurs de la Commission européenne, ça peut devenir utile.
Donc ça, c'est un premier outil, il y en a trois autres.
Alors, le deuxième outil que j'ai trouvé, c'est les dialogues citoyens. Ça, ce sont des espèces de classes vertes pour les commissaires européens et les hauts fonctionnaires. L'idée, c'est de les faire sortir de Bruxelles et aller sur le terrain. Ça existe depuis 2015, ça a eu lieu dans plus de 400 villes et il y en a eu à peu près 1200. Le fonctionnaire qui s'occupe d'organiser ça me disait que ça les faisait un peu flipper au moment du lancement, parce qu'ils savaient pas s'ils allaient se prendre des tomates ou des œufs dans la figure. Mais apparemment, ça se passe pas trop mal. Bien sûr, ça chauffe, parce qu'il y a souvent des anti-européens et des pro-européens qui viennent et qui s'affrontent. Mais à la fin, le fonctionnaire en charge me disait que ça se finissait souvent par un apéro autour d'une bouteille d'eau.
Chose qu'on ne peut pas faire effectivement sur Facebook, même si c'est pour une bouteille d'eau. Je ne sais pas si ça vous intéresse, vous qui nous écoutez, mais on mettra le programme des dialogues citoyens sur le site pour que vous puissiez aller prendre l'apéro à l'eau si un commissaire européen passe dans votre ville. Alors, c'est quoi le troisième outil, Maxime ?
Le troisième outil que j'ai trouvé pour avoir prise un peu sur les décisions européennes, ce sont les pétitions. Les pétitions au Parlement européen. Il y a à l'intérieur du Parlement une commission parlementaire qui s'occupe de gérer les doléances que les citoyens envoient. Cette commission est présidée par une Suédoise, Cecilia Wikström. J'ai parlé à son assistant qui me disait que la commission des pétitions, c'est pas non plus la commission la plus reluisante à l'intérieur du Parlement européen. Pourquoi ? Parce que les députés qui y siègent sont souvent obligés d'écouter plutôt que de débattre et de parler. En tout cas, je lui ai demandé si cette commission avait du pouvoir et je lui ai demandé de me donner un exemple concret de choses qu'elle a pu changer sur le terrain.
On a eu pas mal de cas, par exemple, en Grèce et en Italie, sur les dépôts de déchetterie, quoi. Ça a été mis dans des sites de Natura 2000, donc des sites
protégés par la directive Habitat.
Et donc, qui étaient sensibles pour l'environnement. Donc, il y avait des gens qui se plaignaient et qui disaient, normalement, ils ne devraient pas avoir le droit de mettre ces déchetteries dans ces endroits-là. Et là, ça pouvait suffire avec une petite lettre de la commission des pétitions qui demandait à la mairie d'une ville en Italie de s'expliquer pourquoi ils avaient mis ça, pour qu'eux, ils se disent « Ok, on ne va pas faire ça alors ».
Et alors, Maxime, le dernier outil démocratique que tu as trouvé, c'était quoi ?
Alors, ça s'appelle l'Initiative citoyenne européenne. Ça existe depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Et ça, c'est la possibilité pour 1 million de citoyens européens venant d'au moins 7 pays de l'Union de proposer un texte de loi européen. C'est un outil qui a déjà été utilisé par 9 millions d'Européens, mais dont le bilan est très mitigé. Il y a eu une initiative pour garantir le droit d'accès à l'eau potable qui a véritablement donné lieu à une révision de la législation en cours. Mais il y a d'autres initiatives citoyennes européennes qui ont dépassé la barre des 1 million de signatures, mais qui n'ont rien donné. Exemple, l'initiative citoyenne européenne pour interdire le glyphosate. Ou deuxième exemple, l'initiative citoyenne pour arrêter l'accord commercial avec les États-Unis. Et ça, quand on se mobilise, quand on signe, quand on fait campagne et que ça ne donne pas grand-chose derrière, ça peut créer pas mal de ressentiment. C'est ce que m'a expliqué Steven Boucher de la Fondation Euractiv, qui est l'auteur d'un petit manuel de créativité politique.
Les citoyens ont envie d'être écoutés, mais ils n'ont pas juste envie d'être écoutés pour le plaisir, ils ont envie d'être écoutés et de voir la différence dans leur vie quotidienne. Et ils ont envie d'être acteurs du changement. On le voit aujourd'hui avec les Gilets jaunes, ils ont le sentiment que c'est à eux aussi de prendre les choses en main, de s'exprimer et de demander des résultats. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui rencontre cette attente et cette frustration ? Bien souvent, ce sont des populistes qui disent « Regardez, je parle comme vous, j'exprime vos frustrations, vos sentiments, et c'est vrai que vous n'êtes pas écoutés. Et tiens, d'ailleurs, si on donnait un coup de pied dans la fourmilière. » Mais je ne constate pas d'efforts, de dispositifs pour vraiment aller écouter et tirer cette intelligence collective. Alors quand on dit « Tiens, on va faire une délibération », et qu'on réunit des citoyens, et qu'en plus, souvent, on fait de la publicité en disant « Regardez comme on est moderne, et on fait du participatif, et on fait du délibératif, et autres jargons valorisants. » Si on ne le fait pas sérieusement, bien sûr qu'on alimente ce ressentiment. On s'enthousiasme, on se dit « Mais on a envie d'être acteur. » Pas tout le monde, pas tous les citoyens. Certains n'ont pas le temps, certains n'ont pas envie, certains sont désabusés, etc. Mais ceux qui se mobilisent en se disant « Tiens, là, il y a quelque chose de différent, on sent qu'on va nous écouter. » Si ça sert à rien, ils sont encore plus désabusés. Par contre, pour être un peu positif, il y a aussi de très bons exemples d'acteurs politiques qui s'engagent dans des processus délibératifs, consultatifs, etc., qui font bien les choses et qui font une différence. C'est pas forcément connu de tout le monde, mais il y a de plus en plus de budgets participatifs. Par exemple, on dit aux gens, dans votre ville, vous allez décider comment utiliser un certain pourcentage du budget. Donc ça peut être des millions d'euros ou des dizaines de millions d'euros, comme à Paris, par exemple, tous les ans. Et ce sont les citoyens qui décident, c'est sérieux. Et là, on ne nourrit pas ce ressentiment. Peut-être que tout le monde ne participe pas et que tout le monde n'est pas au courant. Mais ceux qui participent, ils voient très concrètement que c'est l'aire de jeu qu'ils ont décidé qui est construite, que c'est le nouveau service aux personnes âgées qui est mis en route, et que c'est pas du blabla.
Alors ça, j'imagine bien au niveau d'une ville, mais je lui ai aussi posé la question, est-ce qu'on pourrait imaginer que ça se passe à l'échelle d'un continent ?
Le faire à l'échelle européenne, la seule difficulté, c'est une question de coût. Mais c'est juste une question de volonté politique. Et moi, franchement, je pense que le coût de la non-délibération, ce qu'on va payer à terme en ne mobilisant pas l'intelligence collective pour vraiment débattre de quelles sont nos priorités, quelles sont nos valeurs, quelle est notre vision pour la société, de prendre le temps de le faire bien, de montrer aux gens qu'on les prend au sérieux en faisant ça, ben je ne sais pas le chiffrer, mais il est certainement plus que les centaines de milliers d'euros qu'on dépensera avec quelques processus bien faits de ce type.
Et alors, comme les organisateurs de la campagne du Brexit, Stephen Boucher parle de « hacker le système européen ». Mais plutôt que de tout soumettre au référendum, lui propose d'insérer un virus citoyen à l'intérieur des institutions européennes. Il m'a donné un exemple concret, les 73 sièges britanniques au Parlement européen dont je t'ai dit qu'ils allaient rester vacants. Lui, il propose de chaque année tirer au sort des citoyens pour qu'ils viennent siéger avec les députés et faire les lois.
Super, eh ben, écoutez, on vous laisse réfléchir à tout ça ou réfléchir à votre liste de courses avec sur vos oreilles Kodak Black, Travis Scott, Offset, voilà Zézé, on revient nous dans 2-3 minutes. Ice water turn Atlantic, night calling in a phantom. Told them hold it, don't you panic. Took an island, felt the mansion. Drop the roof, more expansion. Drive a coupe, you can stand it. Bitches undercover, I'm a ass and titty lover. Guess we all meant for each other. Now that all the dogs free, and we out in these streets. Can you do it, can you pop it for me? Pull up in a demon on guard, looking like I still do fraud. Flying private jet with the rod. It's that Z shit, it's that Z shit. Pull up in a demon on guard, looking like I still do fraud. Flying private jet with the rod. It's that Z shit, it's that Z shit. Blow the brains out the coupe. Pulling one on top, but I'm on mute. I'ma bust her wrist down cause she cute. Fuck her on the yacht, I've been a pool. She an addict, addict for the lifestyle in the paddock. Daddy, have you ever felt Chanel fabric? I be dripping to death, I need a casket. And we got more strikes than the rough, we foul tech em. In the middle of the field like David Beckham. All my niggas locked up for real, I'm tryna help em. When I got a meal, got me the chills, don't know what happened. Pop pill, do what you feel, I'm on that zombie. I'm more like a Gaddafi, I'm not no Gandhi. I'm more like I'm David Goliath running. Niggas be cloning, I find it funny. We from the north, straight out the dungeon. From the north, I go in the mouth, she costing me nothing. 300 the watch, it's out of your budget. Mean mugging got me clutching. Yeah, and this stick right out of Russia. Ice water turn Atlantic. Night calling in a phantom. Told them hold it, don't you panic. Took an island, fled the mansion. Drop the roof, more expansion. Drive a coupe, you can stand it. Bridges undercover, I'm an ass and titty lover. Guess we all meant for each other. Now that all the dogs free, and we out in these streets. Can you do it, can you pop it for me? Pull up in a demon on guard, looking like I still do fraud. Flying private jet with the rod. It's that Z shit, it's that Z shit. Pull up in a demon on guard, looking like I still do fraud. Flying private jet with the rod. It's that Z shit, it's that Z shit. Vous êtes dans Full Continental. Une fois par mois, on décrypte les sujets abordés dans l'émission, vus depuis Bruxelles avec Maxime Caligaro, qui est un ancien eurocrate, et qui nous aide à comprendre ce qui s'y trame. Après la question du référendum, on va aborder celle des lanceurs d'alerte. Alors c'est quoi un lanceur d'alerte ? C'est Erin Brockovich, c'est Edward Snowden ou Irène Frachon. Selon Transparency International, le lanceur d'alerte, c'est une personne qui, dans le contexte de sa relation de travail, signale un fait illégal, illicite et dangereux, touchant à l'intérêt général, et il le signale aux personnes ou aux instances ayant le pouvoir d'y mettre fin. Et dans le dernier épisode de Full Continental, on avait entendu le témoignage d'Anna Garrido, qui a aidé à mettre à jour un vaste réseau de corruption en Espagne. Pour avoir eu le courage de dénoncer, elle s'était retrouvée dans des situations très très compliquées.
Moi j'ai reçu des menaces de mort, une tépille, les serrures de mes portes étaient vandalisées toutes les semaines. C'est ce que j'appelle la nouvelle torture du 21e siècle. C'est comme te tuer vivante. Après, je comprends tout à fait qu'on ait peur. Et je connais des gens qui ont dénoncer des pratiques et qui un jour reçoivent un appel qui dit « Ta fille, qui s'appelle comme ceci, on sait qu'elle sort du collège à telle heure. Et après, à toi de voir si tu continues ou pas. Et dans ce cas-là, je comprends tout à fait qu'on abandonne. »
Vous retrouverez donc le témoignage en entier de Anna dans l'épisode 21, ainsi que les craintes pour sa sécurité de la Slovaque Zuzana Havková, qui avait seulement 26 ans quand elle a dénoncé des problèmes de corruption dans son propre gouvernement à elle, en Slovaquie. Et on avait entendu aussi Antoine Deltour, qui est d'Épinal, dans les Vosges, et qui, après avoir fait fuiter des documents fiscaux luxembourgeois, ce qui mènera au scandale DeluxLeaks, il avait un jour reçu un appel.
Quand un policier d'Épinal m'appelle en me disant qu'il souhaite m'entendre, je prends une journée de congé pour me rendre à l'heure convenue au commissariat. Et quand j'arrive, on me place tout de suite en garde à vue avec prélèvement d'ADN, on me met en cellule, sans lunettes, alors que je vois même pas un mètre sans mes lunettes. Enfin, c'est un peu pas évident à traverser, quoi.
Alors les lanceurs d'alerte, il y en a visiblement partout sur le continent et on les remercie pour leur courage, mais ils n'ont pas l'air d'être assez protégés. Nous, on a voulu savoir ce qui se faisait à l'échelle européenne pour combler ce déficit. Maxime, tu allais poser la question dans les couloirs des institutions.
Oui, je suis allé la semaine dernière à Strasbourg et à Bruxelles parce qu'il se négocie en ce moment un texte européen sur la protection des lanceurs d'alerte. Avant de prendre le train, j'ai passé un coup de fil à Florence Chaltiel-Terral. Elle est professeure de droit public à Sciences Po Grenoble et elle a écrit un ouvrage savant sur les différents régimes juridiques des lanceurs d'alerte. Elle m'a donné un cours rapide sur le sujet pour m'éviter de poser des questions idiotes aux députés européens. On l'écoute.
Ça s'est surtout développé dans le monde anglo-saxon, la notion de lanceur d'alerte, le whistleblower, qui apparaît aux États-Unis à la fin du 19e siècle, mais alors dans un contexte qui n'est pas du tout celui auquel on pense aujourd'hui, puisque le lanceur d'alerte dans la conception américaine de la fin du 19e siècle, c'est celui qui va dénoncer des fraudes au fisc. C'est en quelque sorte un protecteur de l'État et des finances de l'État. Aujourd'hui, dans la conception qu'on a du lanceur d'alerte, on pense surtout à la dénonciation de risques sanitaires, de conflits d'intérêts. On ne pense pas vraiment à la protection de l'État.
Ce n'est pas Edward Snowden, par exemple.
Exactement, c'est ce que j'allais vous dire. C'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que dès lors qu'on a un lanceur d'alerte aux États-Unis, pour prendre l'exemple initial, qui irait contre l'État, alors il devient beaucoup plus difficile de le reconnaître comme un lanceur d'alerte. Donc on a cette première approche. Ensuite, on a au XXe siècle, milieu du XXe siècle, le droit britannique qui commence à construire une législation sur les lanceurs d'alerte. Alors là, on est plus sur la notion qui ressemble à la notion la plus contemporaine et celle du sens commun, celle dont on parle, dénoncer des actions contraires à l'intérêt général, donc qui peuvent porter à la fois sur des actions publiques ou des actions privées. La loi qui me semble la plus complète aujourd'hui, c'est vraiment la loi anglaise sur le sujet, parce qu'elle apporte énormément de garanties. Il y a beaucoup de jurisprudence pour le coup. Et donc, c'est construit une vraie protection du lanceur d'alerte. Si l'alerte est fondée, alors les menaces vont pleuvoir. Et le droit britannique a mis en place vraiment toute une série de protections, une protection en amont, c'est-à-dire lorsqu'on est au tout début du lancement d'une alerte, si l'intéressé commence à subir des menaces, des pressions pour se taire, alors il a des interlocuteurs pour se faire protéger. Et tout au long de la procédure, il a une protection. Et si, in fine, ces protections étaient insuffisantes, et par exemple, il se fait licencier, c'est le cas des lanceurs d'alerte lorsqu'ils mettent en cause leur entreprise, en tout cas ça peut être le cas, alors il y a des indemnisations qui sont prévues. Après, sur les années les plus récentes, sur les 20 dernières années, on a en Italie et en Allemagne des projets de loi régulièrement, mais pour le moment, on n'a pas, à ma connaissance, de statut vraiment organisé du lanceur d'alerte dans ces deux pays.
Et du coup, effectivement, on se rend compte qu'il y a des trous un peu partout au niveau de la loi en Europe sur le sujet des lanceurs d'alerte.
Oui, au moment où la Commission européenne a proposé son texte, j'ai lu une note, il y avait 10 États membres qui avaient une protection générale des lanceurs d'alerte, donc il y avait des législations très horizontales, 16 qui parlait simplement de quelques secteurs et deux où il n'y avait pratiquement rien.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voyait dans l'épisode de la semaine dernière qu'en Belgique, c'était même pas pareil dans les différentes régions. Par exemple, les lanceurs d'alerte sont protégés dans l'administration, mais seulement en Flandre.
Voilà, et ce genre de différence crée une concurrence déloyale entre pays européens.
Et entre régions, du coup, j'imagine.
Et entre régions. Mais comme certains pays, par exemple, proposent des taux d'imposition très bas pour attirer les grosses multinationales, ils peuvent aussi, pour essayer de continuer à attirer ces grosses entreprises, adopter une législation sévère à l'égard des lanceurs d'alerte et dire « Venez vous installer chez moi, vos secrets seront bien gardés ». Et d'ailleurs, comme par hasard, ce sont souvent les mêmes pays qui combinent imposition faible et législation dure à l'égard des lanceurs d'alerte. On pense notamment à l'Irlande ou au Luxembourg. Bref, combattre la concurrence déloyale, c'est le rôle de la Commission européenne. Elle a proposé en début d'année dernière un texte pour harmoniser les règles en matière de lanceurs d'alerte, mais c'était pas gagné d'avance. C'est Virginie Rozière, une députée européenne qui siège dans le groupe socialiste, qui m'a raconté la genèse de ce dossier dont elle a la charge.
On a eu une commission européenne assez active sur ces questions. Donc on se dit, c'est très bien, les lanceurs d'alerte formidables, des révélations, de gros problèmes, d'atteinte à l'intérêt général des Européens. Donc merci, merci pour votre apport à la démocratie et à la justice fiscale. Super. Sauf que, quelques semaines, quelques mois plus tard, une procédure judiciaire qui se met en place, et ceux qui sont accusés, c'est pas le Luxembourg, c'est pas PwC, donc le PricewaterhouseCoopers, le cabinet d'expertise comptable, c'est Antoine Deltour et Raphaël Allais qui sont poursuivis devant les tribunaux luxembourgeois. Donc on se dit, il y a une forme de paradoxe. On a des lanceurs d'alerte d'un côté dont on reconnaît l'utilité démocratique, l'utilité pour l'intérêt général, au point même qu'Antoine Deltour s'est vu décerner le prix du citoyen européen par le Parlement européen. Mais ce sont eux qui sont traînés en justice. Ça, c'est le premier événement. Le deuxième, c'est qu'on a mis mandat, enfin, sur la première moitié du mandat, on discute d'un texte sur, alors, qui vise à protéger les entreprises européennes de l'espionnage industriel. Ça, c'est l'objectif premier. C'est la directive sur le secret des affaires. Sauf que, on a un texte qui nous est proposé par la Commission, qui a un champ quand même assez large. Et que tout le rôle du Parlement, dans des débats assez houleux, sera été de restreindre la portée de ce texte, et en tout cas d'éviter qu'il puisse être utilisé de manière abusive pour réduire au silence soit des autorités publiques, des corps de contrôle, ou d'éventuels lanceurs d'alerte ou la presse.
Alors on va juste revenir sur ce qu'elle vient de dire. D'un côté, les institutions européennes veulent protéger les lanceurs d'alerte, et d'un autre, elles veulent aussi protéger les secrets des entreprises. Ces secrets, ça va de la recette du Nutella à celle du glyphosate. Alors comment s'assurer que les lanceurs d'alerte et les journalistes puissent continuer d'alerter dans ce contexte? Nicole Ferroni, qui est notamment chroniqueuse à France Inter, avait témoigné sur ces dangers dans une vidéo. Elle s'adressait alors à une députée européenne. Elle était à ce moment-là dans son jardin, elle était en débardeur, c'était en avril, il faisait beau et ça fait rêver.
Et bonjour, madame Constance Le Grip. Bonjour, je me présente, je m'appelle Nicole Ferroni, je suis citoyenne européenne. Voilà, je ne vous connaissais pas en tant que eurodéputée. Et puis bon, comme hier, il n'y avait pas, voilà, je ne savais pas trop quoi regarder à la télé, j'ai regardé un petit peu votre débat au Parlement européen concernant le projet de loi secret d'affaires, trade secrets, que vous avez, dont vous avez présenté le rapport hier et dont la loi va se voter aujourd'hui, jeudi 14 avril. Alors, vous m'arrêtez si j'ai pas compris, hein, mais de ce que j'ai pu comprendre, le secret d'affaires, c'est une loi qui permettra à une entreprise de mieux protéger ses données au motif qu'elles peuvent être volées, donc d'attaquer éventuellement les personnes qui pourraient leur voler. Et vous dites dans votre discours que c'est pour protéger les PME. Le secret d'affaires, au contraire, Madame Le Grip, c'est ce qui permet actuellement à une entreprise comme Monsanto, grosse multinationale, de ne pas publier son rapport sur le glyphosate, vous savez, ce pesticide qui est cancérigène. Et vous, votre loi permettrait qu'en plus Monsanto puisse nous attaquer si jamais on dévoile cette donnée comme quoi c'est vraiment cancérigène. Donc c'est dommage, voyez, au motif de protéger les PME, vous allez permettre à des multinationales de se développer sur le dos de notre santé. C'est con, Sternant. Donc moi, je vais juste aller voir du coup qui parmi les eurodéputés va voter pour votre loi, puis ça me permettra de savoir pour qui ne plus jamais voter. Hein, allez, on fait comme ça. Bisous.
Cette vidéo de Nicole Ferroni avait fait plus de 9 millions de vues. C'est son plus gros buzz à ce jour. Et donc, quelle surprise incroyable de découvrir que ce buzz se fait sur une question super complexe à l'échelle européenne en vue d'un vote au Parlement. Je me souviens, tout à coup autour de moi, on se disait que c'était important de savoir qui votait pourquoi. Et on s'intéressait au nom des parlementaires et aux décisions prises à l'échelon européen, ce qui n'était peut-être jamais arrivé.
Ouais, moi à l'époque j'étais au Parlement européen, toujours petite main, et on avait reçu des tonnes d'appels, c'était génial, tout le monde s'était vraiment penché sur le dossier, il y avait eu un énorme débat grâce à la pression de ce genre de vidéos et des ONG. Mais beaucoup de gens qui travaillaient dans le détail du dossier avaient mal vécu ces attaques, parce que mine de rien, le Parlement européen avait réussi à insérer dans cette directive sur le secret des affaires des garde-fous pour les journalistes et les lanceurs d'alerte. C'est ce que m'a raconté Virginie Rosière quand je lui ai posé la question de savoir s'il avait voté le texte.
Oui, moi j'ai voté le texte, puisque à l'article 5 de cette directive, on fait figurer explicitement un article qui pose le principe de la protection des lanceurs d'alerte. Il faut voir qu'en France, le débat a pris un tour particulier, parce que c'est ça qu'on voit pas forcément au niveau européen. En France, on n'avait pas du tout de texte sur le secret des affaires. Donc c'est vrai que cette directive peut apparaître comme un recul dans le sens où elle a obligé la France à prendre une législation. Mais dans plein d'autres États membres, on avait déjà un texte qui protégeait le secret des affaires et de manière beaucoup plus extensive que ce que propose la directive. Et ça a permis dans d'autres États membres justement de poser des limites nécessaire à l'interprétation qui s'attache au secret des affaires. Par exemple, au Luxembourg, il y a bien une protection des lanceurs d'alerte, mais justement, l'interprétation du secret des affaires, la protection du secret des affaires est tellement large qu'elle prévaut sur la protection des lanceurs d'alerte. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans le procès en première instance pour Antoine Deltour et Raphaël Allais. Et dans la réflexion sur le secret des affaires, nous, on s'est attaché à prendre comme repère la loi luxembourgeoise pour que ce qu'on mettait en place dans la nouvelle directive empêche dans un futur, c'est pas rétroactif, donc ça ne pouvait pas s'appliquer à Antoine Deltour et Raphaël Allais, mais que si le cas devait se répéter, la nouvelle directive justement empêche qu'ils soient poursuivis comme ils l'ont été.
Et pourtant, malgré ces précautions, aujourd'hui encore, des journalistes disent que le texte sur le secret des affaires est problématique, parce que nous, on a passé un coup de fil à Nicole Ferroni, qui était entre deux trains, et qui nous a rappelé que, dans au moins deux cas, le secret des affaires avait permis de condamner journalistes ou lanceurs d'alerte qui s'intéressaient de trop près à des abus dans des entreprises. On mettra les liens des articles sur la page de l'émission. Et du coup, il dit quoi, finalement, le texte européen sur les lanceurs d'alerte qui est en négociation en ce moment ?
Alors, le texte de la Commission propose d'harmoniser la protection des lanceurs d'alerte dans tous les domaines où l'Union européenne a une conséquence. Et ce n'est pas rien. Il y a par exemple les marchés publics, les transports, l'environnement, la sécurité alimentaire, les services financiers.
Et alors, en faisant mes recherches pour le dernier épisode, j'ai vu qu'en France, la loi prévoit que si tu constates une irrégularité, tu dois d'abord la dénoncer en interne. Et s'il se passe rien, seulement à ce moment-là, tu peux aller voir les autorités. Enfin, en dernier recours, tu peux aller voir la presse, mais pas avant.
C'est la même chose au niveau européen. Le texte de la Commission reprend beaucoup le modèle français. Les parlementaires européens, eux, s'opposent à cette logique de hiérarchisation des canaux de l'alerte. Eux, ils veulent qu'on puisse aller directement voir les journalistes pour lancer une alerte. Mais la commissaire d'origine tchèque, en charge du dossier, est très ferme sur ce point-là. Elle veut que la presse arrive en dernier recours. Alors, j'ai demandé à une de ses conseillères pourquoi elle était aussi arc-boutée sur cette décision. Et elle m'expliquait qu'avant d'entrer en politique, cette commissaire européenne gérait des fonds européens dans son pays et qu'en 2008, elle avait été accusée par voie de presse d'avoir touché des pots de vin. Elle avait passé plus d'un mois en détention provisoire, ça avait détruit sa famille. Et il s'était avéré plus tard que les allégations étaient fausses, mais trop tard, le mal était fait. Bref, pour elle, les médias, pourquoi pas, mais vraiment en dernier recours.
Bon, et alors, tu dis que ce texte est en discussion, est-ce qu'il va finir par passer ou pas ?
La Commission européenne le veut, le Parlement européen l'a voté. Là, en ce moment, le dossier est au Conseil des ministres de l'Union européenne.
Alors, le Conseil des ministres de l'Union européenne, c'est donc l'étape finale, c'est là que siègent les ministres des États membres, et c'est une institution qui n'est pas hyper transparente. J'en avais parlé avec Nicole Ferroni qui me disait qu'il était impossible, par exemple, de savoir quel pays votait pour quoi et comment. Par exemple, je ne sais pas si, pour les lanceurs d'alerte, qui a voté pour ou contre.
Alors, pour l'instant, les ministres n'ont pas voté, le texte est en discussion, on peut dessiner des grandes tendances. La France et l'Allemagne sont très pour qu'avant les élections, on ait un texte pour protéger les lanceurs d'alerte. Certains pays, comme l'Angleterre et l'Irlande, sont contre. Mais ce qui achoppe en ce moment au Conseil, c'est la question de la base juridique de ce texte. Alors la base juridique, ça paraît un peu barbare, mais c'est la grande obsession des diplomates et des fonctionnaires européens. Pourquoi ? Parce que l'Union européenne, c'est pas un État souverain qui peut légiférer sur tout et n'importe quoi. L'Union européenne, c'est un club auquel les États ont donné des compétences à travers des traités. L'Europe ne peut pas tout faire, elle peut faire ce que les États veulent bien qu'elle fasse. Et le Conseil se demande en ce moment si l'Europe a bien une compétence en la matière et invoque le droit en disant « Mais écoutez, dans les traités, on n'a pas de base juridique pour faire ce texte ». Ce dossier des lanceurs d'alerte est fascinant parce qu'on va voir, en fonction de ce que décide le Conseil, où s'arrête le droit à Bruxelles et où commence vraiment la politique.
Alors on termine là-dessus pour cette fois. On va surveiller ce que devient cette loi européenne sur les lanceurs d'alerte. Merci beaucoup Maxime Caligaro. La prochaine mensuelle, ce sera le 24 février. D'ici là, moi je pars en Italie pour tourner des portraits de jeunes élus. On est aussi en contact avec des jeunes à Kiev et en Estonie, auxquels on aimerait donner la parole. On met, comme chaque semaine, plein de liens sur ce qu'on s'est dit sur les sites de France Inter et sur celui de la RTBF La Première, des articles, les dossiers et des infos aussi sur ton polar, Maxime. Merci à tous pour votre écoute. Merci à Benjamin Riquet à la réalisation, à Maximin Grand à la technique, Romain Couturier et Djoubaka pour la musique. Merci à Claire Brault qui chaque semaine illustre l'émission. On mettra ses dessins sur les pages Facebook, Twitter et Insta de Full Continental. Merci à tous, belle semaine et à dimanche prochain.